Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
On est de retour dans les grandes gueules du sport. Il est 10h05 ce dimanche matin. On est ravis de vous retrouver avec Marc Madiot, Renaud Longuet, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, nos GG de ce dimanche. Si vous avez raté la première heure, on vous en veut pas, hein. On est dimanche matin, mais le podcast est déjà disponible, le podcast des GG, à retrouver sur toutes les plateformes, sur l'appli RMC dès maintenant, pour entendre notamment notre débat autour de l'Olympique de Marseille ou encore sur le sport le plus difficile mentalement. Voilà, vous pourrez entendre Marc Madiot qui est pas tout à fait d'accord pour dire que c'est du tennis. Dans 30 minutes, on retrouvera un homme heureux, Pierre Amiche, qui va dire du bien de Gérard Piqué. Tiens, tiens, ça sera à ne pas rater. Et puis à 11h, le bras de fer des GG, puisque les caméras de Netflix envahissent le monde du sport, la F1, le vélo, le tennis, le rugby, qui vont avoir le droit à leur série documentaire sauce américaine, avec parfois des épisodes bien bien scénarisés comme on aime. Ça peut agacer aussi. Est-ce que l'apparition de Netflix est merveilleux ou dangereux? Les GG vont devoir choisir leur camp. Et puis il y a la finale que l'on suit en ce moment en direct de l'Open d'Australie entre Novak Djokovic et Tsitsipas, le grec. Eric Salio est à Melbourne en direct. Eric.
Oui, Novak Djokovic qui a pris le large déjà dans cette finale puisqu'il mène 3 jeux à 1 et avec 2 balles de 4-1 à venir. Donc vous avez compris qu'il a pris le service de Tsitsipas. Tsitsipas très nerveux, qui a commis une double faute sur la balle de break. Donc ce qui prouve que pour l'instant son tennis n'est pas en place. On sent qu'il est, il est nerveux. Je ne veux pas dire qu'il a les pieds dans le ciment, mais bon, pas loin. Il faut qu'il se détende. Et puis espérer aussi que Novak Djokovic soit pas aussi bon, parce que pour l'instant Djokovic il est intouchable. Donc encore une balle de 4-1 pour Novak Djokovic, qui porte pas le même bandage que depuis le début de la quinzaine, un petit bandage plus petit, mais il y a quand même un petit quelque chose,
mais pour l'instant ça n'empêche pas de faire la course en tête, notre ami Djokovic, qui déroule. On espère qu'il y aura un peu plus de suspense, hein. Ça va venir. En tout cas, on a eu du suspense hier avec la finale dames que l'on a suivie. On va voir si Tsitsipas se réveille. On suit ça de près avec toi, Eric. Mais d'abord, on va jouer aux petits chevaux dans les GG.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le peloton de 18 chevaux représentait à lui seul, au départ du Prix d'Amérique, les espoirs de plusieurs millions de parieurs.
Attention, ils vont partir, ils sont partis.
Dernier tournant, Gallus, étonnant, c'est un peu compliqué. Gallus qui se détache, c'est impressionnant. On rentre dans la phase finale.
Il y avait 7 milliards d'anciens francs d'enjeu sous les sabots de ces super cracks du trot international.
Allez, Gallus qui a pris l'avantage à 300 mètres du poteau. Il est encore 20 mètres d'avance, on va dire 10 mètres d'avance sur Davidson Dupont.
Pour acheter cette jument prodige, son propriétaire a tout vendu, il s'est débarrassé de ses bœufs et de ses terres, et il a bien fait en définitive.
Attention à l'extérieur, Flamme du Goutier qui va bien
Gallus
finir.
Gallus qui repart, mais attention, Davidson Dupont n'a peut-être pas dit son dernier mot. Gallus, Davidson Dupont.
Le cheval, c'est génial.
C'est Nicolas Mazière qui
nous a fait mentir. Davidson Dupont qui remporte son prix d'Amérique.
Mathieu Zaccanini, Dimitri Blanc-L'œil au commentaire. C'était l'an dernier lorsque Nicolas Bazire avait remporté ce prix d'Amérique sur Davidson Dupont. On sera d'ailleurs avec Nicolas Bazire dans un instant. Le prix d'Amérique, c'est cet après-midi, là, cette version 2023, à l'Hippodrome de Vincennes à 16h25. À suivre, bien sûr, en direct sur RMC. C'est un événement énorme dans le monde des courses hippiques. Pour les jockeys, c'est le Graal. Et pour les parieurs, c'est incontournable. Alors, les GG, je vous pose cette question. Est-ce que le prix d'Amérique, c'est encore du sport? Oui ou non? Pascal Duprat.
Plus que jamais.
Renaud Longuèvre.
C'est du sport pour les animaux, pas pour les humains.
Donc un non.
Ou Renaud.
Christophe Cessieux.
Oui, c'est du sport, évidemment.
Marc Madiot.
Oui.
Renaud, tu vas être bien seul. Mais avant de vous entendre plus longuement et avant de t'entendre, Renaud, on accueille Dimitri Blanc-L'œil qui est en direct de Vincennes, l'un des membres de la Dream Team RMC. Salut Dimitri.
Salut François, bonjour les grandes gueules, salut tout le monde.
D'abord, quand on parle de prix d'Amérique, on parle aussi beaucoup de chiffres. Il est beaucoup de questions de chiffres quand on parle de cet événement majeur.
Bah, effectivement, que ce soit au niveau des enjeux ou même au niveau de la visibilité, c'est quand même une course qui est regardée dans 36 pays différents. Vous avez notamment l'année dernière, il y a eu 1 million de téléspectateurs juste en France. Je pourrais vous donner d'autres chiffres. Juste sur la course en elle-même, il a été misé quasiment 19 millions d'euros l'année dernière sur la course. Donc oui, c'est une épreuve qui est regardée et c'est une réunion à ne pas manquer. Voilà ce qu'on peut donner en tout cas sur les chiffres.
D'accord. Dimitri, tu restes avec nous pour le débat, bien sûr, parce que on va avoir besoin de toi. Peut-être que tu n'es pas très content de la formulation de la question. Le prix d'Amérique, est-ce que c'est encore du sport? Mais c'est la question que l'on vous pose et qu'on a posée à nos amis ici. Renaud, pourquoi tu dis non?
Bah non, mais si. Par contre, moi, je veux pas non plus être le punching ball des fans de turfistes. Mais parce que bon, voilà, je peux comprendre que ça intéresse les gens. Moi, je suis allé une fois au champ de course à Vincennes parce que c'était à côté de l'INSEP. J'ai passé une bonne soirée. J'ai mangé un bout. J'ai perdu un peu de sous. Enfin, c'était le but, quoi, comme dans un casino. Mais après, au-delà de ça, je veux dire, les courses de lévrier en Irlande ou autre, à ce moment-là, c'est du sport. Enfin, sauf que oui, il n'y a pas un être humain qui est assis sur la bête, mais l'effort sportif, hein, je veux dire, sur le plan physiologique, enfin, Marc, tu es quand même dans un sport qui est hautement physiologique. Il faut quand même actionner les pédales pour avancer en vélo. Je veux dire, pour se déplacer vers l'avant, je ne vais pas vous faire un cours de biomécanique, mais il faut produire des forces au sol. C'est comme Usain Bolt. Hein. Usain Bolt, il fait du surplace, il ne produit pas des forces au sol. Bah, celui qui produit de la force au sol pour déplacer son centre de masse, c'est la animal. Donc c'est l'animal qui fait l'effort. C'est, il y a pas, je veux dire,
donc ça veut dire
pas d'ordre là-dessus. Si la question c'est est-ce que c'est du sport, bah, c'est du sport pour la bête.
Mais non, je veux dire, mais alors non, un pilote automobile, c'est pas un sportif non plus. Un mec qui fait du concours de saut d'obstacle, et pareil, il est sur son cheval. Tu considères pas que ce sont des sportifs?
Alors quelqu'un qui fait du tir.
Ouais, quelqu'un qui joue au poker, quelqu'un qui joue aux cartes. Quelqu'un qui fait du poker. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ouais, bah, le tir. Alors, le tir, c'est différent, Pascal, parce que là, déjà, il faut tenir l'arme, il faut viser. Il y a une interaction.
Renaud, t'es une pointure, mais tu t'enfonces là. Parce que demande à Nicolas Bazire qu'il t'amène sur son entraînement.
On l'aura dans un instant.
Non,
okay.
Il te fasse faire un peu de trop monter, et ensuite, tu reviseras ton jugement.
Non, mais attends.
Parce que crois-moi, c'est un effort
physique.
Mais
s'il a pas le bon cheval, il gagnera pas, parce que. Il y a deux choses dans ce que dit Renaud.
C'est avec un mauvais cheval que tu peux parfois gagner.
Bon, on va donner la parole à Marc, mais il y a deux choses dans ce que dit Renaud. Il y a le côté, effectivement, peut-être que on peut admettre que pour le jockey, bien sûr, c'est du sport, c'est une préparation. On sera avec Nicolas Bazire, mais c'est peut-être avant tout fait pour les parieurs aussi.
Non, 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 non et non.
C'est le spectacle. Non, c'est magnifique.
Vas-y, Marc.
Je pense qu'il faut aller sur un champ de course pour se rendre compte de ce qu'est vraiment cette compétition hippique. C'est une communion.
Surtout le prix d'Amérique. Hein,
le prix d'Amérique, mais même l'Arc de Triomphe et toutes les courses de chevaux, c'est une communion entre le driver, notamment entre le driver et son cheval. Le driver ou le jockey prépare son cheval. C'est toute une. Moi, je connais bien le trot puisque la Mayenne est un des grands berceaux.
Que oui.
De la formation des trotteurs en France. C'est une zone d'élevage. C'est.
Oui, mais
c'est une institution. Il y a des familles entières qui se consacrent au développement d'un cheval pour l'amener à son meilleur niveau de forme. Et quand vous allez sur un champ de course, la course c'est une chose, mais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut vivre, c'est tout ce qui entoure la course. Quand vous allez au pied du vent, que vous voyez le driver qui prépare son cheval, qui va le lisser, qui va le masser, qui va l'assister pour qu'il soit au meilleur de sa forme pour la course. Et quand vous assistez à la course et que vous voyez l'effort fourni par le cheval en communion avec son driver, c'est un vrai sport. C'est un vrai sport. Quand vous avez cette chance de découvrir ça sur le terrain, au bravo bord Marc. De la piste, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bravo. C'est une communion entre le cheval et son jockey ou son driver. C'est extraordinaire. On voit des bêtes exceptionnelles. Ce sont de vrais athlètes, de grands athlètes, dignes des pistes olympiques.
Alors, moi, je veux bien, mais j'ai ouvert l'équipe ce matin. Je l'ai lu comme tous les matins. Je lis l'équipe. Il n'y a pas une trace. Il n'y a pas une trace sur l'événement, le prix d'Amérique.
Tu nous sers le truc sur un plateau. Bah, moi, oui. Je suis un. Allez. Pour moi, l'équipe, le journal équipe, c'était la Bible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe est encore une bible?
Bah, je sais pas, mais en tout cas, il ne parle pas du prix d'Amérique.
Il n'y a pas beaucoup de pages, mais on ne parle pas de sport.
Pascal.
Touche pas à l'équipe, Marc, toi tu es Marc, touche pas à l'équipe.
Mais je ne touche pas à l'équipe, je suis le premier à le lire tous les matins, mais je suis un peu déçu.
Pascal, alors, toi t'es passionné. Toi.
Ouais, je voudrais rajouter à ce qu'a dit Marc, parce que dit Marc, c'est la vérité sur ce sport à part entière, qu'est le monde des courses, le monde hippique, que ce soit, même si je préfère le trot au galop, ça c'est une affaire de ressenti, mais et pour répondre à ce que disait Renaud, ce sont de vrais athlètes, les chevaux sont de vrais athlètes qui sont extrêmement bien préparés aujourd'hui. J'ai eu la chance d'aller à Grosbois, qui est le temple de l'entraînement des trotteurs, mais dès 6h du matin, tu as les entraîneurs et aussi des drivers qui sont là, qui sortent les chevaux, qui les préparent, ils parlent d'efforts intermittents, ils copient ce qu'ils font chez les athlètes humains, en fait, pour leurs chevaux. Et puis, il y a, comme le disait très bien Marc, on n'a pas besoin d'aller au Prix d'Amérique ou à l'Arc de Triomphe dans n'importe quel petit hippodrome de province. L'été, vous allez voir des drivers, des entraîneurs, des éleveurs, des propriétaires qui forment cette communion avec les parieurs et qui créent du lien social. Et vous apercevez que le driver, il fait corps avec son cheval, il l'aide à se propulser, à défier les lois de l'apesanteur et à battre des records de vitesse. Aujourd'hui, les réductions kilométriques pour les chevaux pendant le Prix d'Amérique, je suis certain que cet après-midi, le record qui est d'une 11-2 au kilomètre, il va être battu.
Oui, mais est-ce que les gens justement s'intéressent à ça, se disent, tiens, le record c'est important, ouais, ou pas? Est-ce qu'ils s'intéressent pas plutôt à qui va gagner, sur qui j'ai parié, etc. C'est ça, moi je me place du point de vue du public. Là, vous me parlez des jockeys, bien sûr que c'est peut-être sportif.
Je peux aussi parler des chevaux, Rock et Pin, ça te parle?
Non.
Rock et Pin, c'est un des plus grands trotteurs des années 60. Ourasi, Didier Pello, Ténor de Beaune. Tout ça, ce sont des noms qui sont rentrés dans le langage populaire.
Dans la légende. Alors, le seul problème.
Dans la légende n'est pas forcément de tous les fans de sport.
Je peux parler ou non?
Vas-y, Christophe.
le seul problème de ce sport, c'est qu'il est brouillé par les paris. C'est ça.
Regarde, les sports des paris aujourd'hui.
Oui, alors, je vais y revenir.
Oui, mais est-ce que ça existe
aujourd'hui
les paris?
Alors, tu parlais de l'équipe, moi je vais te parler du journal Le Parisien. Ils font 5 pages aujourd'hui sur le Prix d'Amérique.
C'est normal,
il y en a 4 qui sont consacrés aux paris. Et une seule page est consacrée finalement aux histoires et au sport hippique en lui-même. Mais je trouve que les paris ont phagocité en fait ce sport. Désolé Marc,
ça va au-delà des paris.
Justement de faire la même chose avec tous les autres sports. Puisqu'aujourd'hui tous les autres sports sont sujets aux paris. Et il y a des gens qui ne supportent plus une équipe parce qu'ils sont passionnés par leur équipe, mais parce qu'elle peut leur rapporter de l'argent. Et j'ai peur que justement le sport, tous les autres sports soient phagocytés comme le sport hippique, qui est l'un des plus vieux sports de la Terre. C'est un des premiers sports qu'on a pratiqué à l'époque de l'Antiquité. Sauf qu'à l'Antiquité, t'allais pas mettre tous tes sesterces sur le char de Ben-Hur, tu t'en foutais. Tu voulais qu'il gagne. Aujourd'hui, t'en as rien à faire. Aujourd'hui, tu veux que les mecs te
rapportent de l'argent. Mais
je vais regarder
quelques prix d'Amérique sans avoir joué.
Parce que tu viens d'un département
qui
où le cheval
sans avoir joué. Est-ce qu'il y en a qui regardent vraiment pour la performance
sportive? Beaucoup de gens regardent. Si aujourd'hui c'est une course mythique, tu peux regarder le Prix d'Amérique sans avoir joué, sans avoir pris de paris. C'est un moment de sport, c'est intense, c'est exceptionnel. Allez tous sur un petit champ de course. Il y a une communion qui s'installe. Mais moi, je suis originaire de la Mayenne. J'allais aux courses en de grand. Mais non, j'allais aux courses. Je pouvais aller aux courses.
Moi, je suis allé.
Mon père et regarder. Rien que regarder les chevaux. Rien que les regarder.
C'est fantastique. Est-ce que je peux rajouter un.
Alors, très court, parce qu'on va être avec Nicolas Bazire dans un tout petit instant, Pascal.
Ce sont tous ces drivers, j'en connais quelques-uns, enfin les connaître c'est un bien grand mot, mais il m'est arrivé de les rencontrer, ils sont d'une humilité, ils se lèvent le matin à 6h, ils doivent faire le poids, ne l'oublions pas, c'est des garçons qui s'astreignent à une vraie préparation athlétique, et pour autant ils sont toujours disponibles, ils sont sympas, ils sont naturels, ils sont exceptionnel. Franchement, on gagnerait à aller voir davantage les courses pour se défaire de l'aspect paris sportif dont tu parles fort bien, Christophe. Parce que les courses, c'est un vrai effort. Vraiment, le cheval et le driver, c'est exceptionnel.
Alors, juste, je cite Eric Salio, que l'on trouvera dans un instant pour la finale de l'Open d'Australie, mais il a transmis ça à nos équipes en régie. Il a dit, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on peut pas interviewer les chevaux. Hein, parce que là, ça serait plus facile de raconter des histoires si on pouvait avoir le ressenti des chevaux, bien sûr.
Les drivers et les jockeys.
On interroge les jockeys et les drivers. Et justement, Nicolas Bazire est avec nous en direct à 10h19 dans les Grandes Gueules du Sport. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez entendu le débat, j'imagine. Je rappelle d'abord que vous avez remporté l'an dernier le Prix d'Amérique à Vincennes sur Davidson Dupont. Votre première victoire au deuxième essai dans cette course mythique. Avant de revenir justement sur cette course mythique, sur la préparation, etc., votre avis peut-être sur notre débat. Est-ce que c'est encore du sport? Même si j'imagine ça vous a peut-être énervé légèrement, Nicolas.
Oui, bien sûr, c'est toujours un sport parce que, tout simplement, parce que les chevaux, c'est des sportifs, ils sont traînés comme des sportifs de haut niveau, ce sont des sportifs de haut niveau, donc forcément, c'est un sport.
C'est un sport pour Nicolas Bazire, mais j'attendais pas une autre réponse de votre part. Est-ce que, justement, dans la préparation physique, on parlait un peu de physique et de tout ça, il y a quelque chose de spécifique quand on est driver ou jockey?
Quand on est driver, pas spécialement, quand on est joker un peu plus, parce qu'il y a un certain poids à respecter.
Ouais.
Mais driver, on peut se laisser aller un peu plus.
Ouais. Alors que Lionel Charbonnier nous parle souvent d'une finale de Coupe du Monde des trotteurs, hein, en parlant de ce prix d'Amérique. Vous, Nicolas, vous l'avez gagné l'an dernier, hein, je le rappelle, à seulement 21 ans à l'époque. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous êtes dans la dernière ligne droite, là on se replonge un peu à l'an dernier, la dernière ligne droite à Vincennes, vous allez gagner, qu'est-ce qu'on ressent dans une course comme ça?
Qu'est-ce qu'on ressent? Déjà on est concentré, du départ à l'arrivée, et au début je pensais surtout pas que je pouvais gagner à l'entrée de la ligne droite, tellement j'avais le chemin à faire sur le cheval qui était devant. Et mon cheval est venu prendre l'avantage... un minime avantage sur le poteau. Donc c'était incroyable. Au début, je ne comprenais pas trop.
Ouais.
Et c'est après, en regardant la course en plusieurs semaines, en plusieurs mois, c'est là que tu comprends un peu plus que ça fait quelque chose, que tu as réalisé un rêve.
C'était votre rêve, bien sûr. Christophe.
Nicolas, cet après-midi, vous n'allez pas faire le Prix d'Amérique. Il y aura un autre Bazire. C'est papa, je crois, qui va driver votre, ouais, le cheval que vous avez qualifié. Dites donc là, le paternel, il est dur en affaires, hein.
Ah, bah oui, encore. Il est pas encore parti à la retraite.
Bon, mais ça va, ça se passe bien entre vous deux.
Ouais, non, ça va. On s'entend bien. Donc, c'est sûr, c'est plus simple quand même.
Après, c'est vrai qu'on peut être surpris de l'absence du vainqueur de l'année dernière. Voilà,
il a qualifié son cheval, en
exactement,
plus. Parce qu'il faut se qualifier pour aller au Prix d'Amérique. C'est quand même le championnat du monde des trotteurs.
Pascal, tu voulais parler à Nicolas.
Oui, en fait, moi j'aimerais que Nicolas il insiste davantage. Bien sûr que le cheval est un vrai champion, un vrai athlète, mais aussi sur le driver. Parce que le driver a aussi une préparation à assumer. Pas n'importe qui peut driver.
C'est sûr, mais...
On vous entend mal, Nicolas.
On occupe plus au vieux, déjà.
On n'a pas entendu votre réponse.
Non, oui, préparation, mais préparation surtout pour les choses aussi. Non.
Ah, malheureusement, on est embêté par cette liaison, Nicolas. Bon, on suivra ça, bien sûr, en direct. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Bazire. Je le rappelle, vainqueur de l'an dernier du Prix d'Amérique, qui ne sera pas là, mais comme l'a très bien dit Christophe, il y aura un autre Bazire sur le sulky pour suivre donc ce Prix d'Amérique à Vincennes. On va remercier aussi Dimitri Blanc-L'Œil qui est passé nous voir et qu'on retrouvera, bien sûr, pour les courses. Dimitri, t'as un favori, d'ailleurs, pour aujourd'hui, Prix d'Amérique?
Bah écoute, c'est vrai que c'est un prix d'Amérique qui est assez ouvert. On a connu des cracks comme Bold Eagle, FaceTime Bourbon ces dernières années où on avait un favori vraiment logique au départ de cette épreuve et difficile d'aller contre. Là, c'est assez ouvert. J'ai quand même une vraie préférence pour le numéro 14, Flamme du Goutier. On parlait de jeu tout à l'heure. Alors, on n'est pas obligé de jouer hein, quand on regarde les courses, bien évidemment. Mais si vous voulez apporter effectivement un petit peu de piment, n'hésitez pas à jouer dans cette course. Ça sera 16h25. Alors, Flamme du Goutier, c'est le numéro 14, en tout cas pour ma préférence. Et au moment où je vous parle, elle est cotée à 8 contre 1. C'est-à-dire que pour la victoire, si vous mettez 1 euro, le PMU vous redonne 8 euros. Voilà, pour 1 euro investi dessus. Donc la cote est intéressante. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Dimitri. À bientôt. À bientôt. Tu reviens quand tu veux dans les grandes gueules. Et à tout à l'heure, bien sûr, pour se vivre ce prix d'Amérique que Marc Madiot ne ratera pas. Il va rater la finale de hand, mais pas le prix d'Amérique. On va aller du côté de Melbourne parce que ça y est, premier set pour Djokovic, Eric Salio.
Ouais, 6 jeux à 3 en 36 minutes, il n'y a pas eu photo. Je ne vais pas dire que je suis inquiet pour Tsitsipas, mais bon, il est passé à côté de son sujet. On voit qu'il bouge pas bien et c'est là qu'on voit toute l'expérience du Serbe qui a su étouffer donc son adversaire.
Tu vois toujours un match en 5-7, Eric, ou non?
Ah bah écoute, ça va jouer dans les minutes qui arrivent là.
Ouais. Parce que
s'il n'arrive pas à se libérer, ça peut faire 3-7-0, on est d'accord. Mais j'ai confiance en Tsefalo Tsitsipas. Il a payé pour apprendre. C'est comme au poker. Maintenant, il va se rebeller. Il le faut parce que Djokovic joue bien. Mais c'est pas exceptionnel non plus. C'est surtout Tsitsipas qui, je trouve, a les jambes un peu dans le ciment. Donc il faut trouver des solutions dans la tête pour bouger mieux et retrouver son tennis naturel.
Tu as misé ton manoir normand sur une victoire de Tsitsipas aujourd'hui, Eric, ou non?
Non, j'ai préféré miser sur le Grand Prix d'Amérique.
Ça, pourtant, c'est risqué. Hein. Merci beaucoup. Merci, Eric. Et bien sûr, on va suivre le deuxième set entre Djokovic et Tsitsipas dans un instant. Vous restez avec nous sur RMC dans les grandes gueules du sport. On va retrouver un homme heureux. Tiens, en ce dimanche matin, Pierre Amiche arrive avec son grand sourire pour parler de Gérard Piqué. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Bientôt 10h30 dans les GG qui sont de retour jusqu'à midi. Marc Madiot, Pascal Duprat, Renaud Longuet, Christophe Cessieux en pleine forme pour vous réveiller ce matin. Dans un instant, on aura un nouveau zapping. On s'en fout pas. On parlera de Michaela Schifrin. Je sais que Christophe, ça l'intéresse. Elle est en route vers le record. Vraiment, elle a terminé en tête de la première manche du slalom. Et donc la deuxième manche, ça sera sur RMC bien sûr, pour voir si elle rend égale ce record de victoire à 86. On en reparlera dans un petit instant. Mais d'abord, on va faire entrer un homme heureux.
RMC. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content, content, content.
Pierre Amiche. Bonjour Pierre Amiche.
Bonjour à tous.
Pourquoi t'es heureux ce matin?
Eh ben cette semaine, Gérard Piqué a su faire avec moi ce qu'il a jamais su faire avec Shakira, me rendre heureux. Je m'explique. Pour nous, simples mortels nés du bon côté des Pyrénées, pour nous, peuple normal qui mange à des heures normales, qui a des coupes de tif normales, hein, pas des trucs chelous, mulets latérales avec des cheveux gras, pour nous qui parlons à un volume sonore normal, pour nous, en somme, français, eh ben Gérard Piqué, c'était pas Beckenbauer. Hein. Pour nous, c'est juste un mec cramé qui a fait 4 saisons de trop au Barça, qui a des idées éclatées sur le foot et qui a réussi le tour de force de racheter une compétition vieille de plus d'un siècle. 1 milliard, la Coupe Davis, c'est de la massacrer en moins de 3 ans. Et qui a trompé Shakira. Je te pardonnerai jamais, Gérard. Globalement, Piqué, c'était un mec qui avait 20 idées par semaine et pas une seule de bonne. Et même de manière plus globale, elles étaient toutes pourraves. Hein. On avait, pour reconnaître le mérite de la constance, moins celui du génie. Alors pourquoi je suis heureux? Eh ben parce que ce trou noir qui bousille tout ce qui touche a enfin trouvé sa voie. Je vous parle de la compétition qu'il a inventée, créée, qu'il a fait grandir très vite et qu'il a modestement nommée la Kings League. Le concept est simple, des matchs de foot en salle à 7 contre 7. Mais parce qu'il peut rien faire comme tout le monde, c'est pas juste du foot. Non. C'est un délire hyper protéiné, épileptique, avec des jokers, des happenings, des dauphins qui apportent de la cocaïne. C'est un truc de fou. Il y a 12 équipes, mais chacune est présidée par une ancienne gloire du foot espagnol ou une star des réseaux sociaux. On a notamment Iker Casillas, Chicharito Hernandez, le Kun Agüero, ou Ibai Llanos, qui est une sorte de Lemuel à la sauce espagnole. Il y a eu plus de 12 000 CV qui ont été envoyés à GG pour participer. Les équipes ont été faites par tirage au sort parmi les candidats. 10 mecs au hasard, un pro qui va rester toute la saison et un professionnel qui change toutes les semaines. On a vu Raúl Tamedo, Joan Capdevila, Javier Saviola et même, comme le dit régulièrement François, cerise sur la paella, un joueur masqué. Il s'agirait d'un joueur de première division qui n'a pas reçu l'accord du club. Alors il a débarqué avec une cagoule de lutteur mexicain pour pouvoir participer dans le plus grand secret à un des matchs. les règles. Là encore, c'est la folie. Hein. Le coup d'envoi, c'est comme dans Braveheart. Le ballon au milieu et tout le monde court vers le ballon en hurlant. Ah, remplacement illimité, suspension temporaire en cas de carton. 2 minutes pour un jaune, 5 minutes pour un rouge. Et surtout, surtout la vraie folie, c'est avant le match, le capitaine de chaque équipe tire au sort une carte golden. Et là, t'obtiens des pouvoirs un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Hein. Soit t'as un pénalty instantané, retirer un joueur adverse pour 2 minutes, le but qui compte double ou encore voler le pouvoir de l'adversaire. Moi, j'ai regardé, j'étais étonné parce qu'il n'y a pas de carte Shakira, celle qui te retire la moitié de tout ce que tu possèdes sur une musique reggaeton sympa. Donc oui, c'est n'importe quoi, mais c'est son n'importe quoi à lui. Hein. Il a inventé le truc et libre à nous de kiffer ou de pas kiffer. Alors les petits malins qui écoutent régulièrement mes chroniques vont dire « Ouais, mais t'avais dit que Wenger avec ses nouvelles règles c'était pourri, que Piqué ses idées sur le tennis c'était naze, gna 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 gna. » c'est vrai, mais il y a une immense différence. Ce que je supporte pas, c'est pas la nouveauté, c'est l'idée de prendre un truc qui existe pour le changer en quelque chose qui soit vendeur. Quand tu déglagues un sport séculaire uniquement pour plaire à un nouveau public ou une nouvelle génération, bah, je trouve ça nul, ça m'agace. En revanche, inventer un nouveau sport avec des nouvelles règles, ça y a aucun problème, c'est cool. C'est comme le Quidditch où les geeks fans de Harry Potter ils grimpent sur des balais pour courir après des balles en dans le bois de Vincennes. C'est pas fou, je trouve pas ça magnifique, mais ils font chier personne. La vie est belle, quoi. Il y a quand même 2 différences majeures entre Piqué et les fans d'Harry Potter. La première, c'est que les matchs version GG sont diffusés sur Twitch pour une audience d'environ 800 000 viewers. C'est quand même pas mal. La deuxième, c'est que les joueurs de Quidditch, eux, ils ont jamais trompé Shakira.
Merci beaucoup Pierre, merci.
On va sur Shakira ce matin avant de prendre l'antenne.
C'était un grand débat qu'on ne, n'aura pas à l'antenne. Hein. Ça n'intéresse que nous. Est-ce que vous aimez cette compétition sauce piquée là, avec plein de surprises partout, des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, un peu farfelus? Oui ou non, messieurs? Pascal Duprat.
Non.
Renaud Longuèvre.
Ça donne envie, hein, en tout cas.
Ça donne envie.
Ça donne envie quand on écoute Pierre.
Plutôt oui. Christophe Cessieux.
Non, pas du tout.
Marc Madiot.
Non.
Non ? Alors pourquoi ça te donne envie ?
Non, parce que ça casse les codes. Ça casse les codes, tout simplement. Et c'est vrai que, comme il l'a dit Pierre, c'est pas pour remplacer quelque chose, c'est pas pour modifier quelque chose. Attention, moi, je lui en voudrais à vie, quoi qu'il arrive à piquer, hein, parce que la Coupe Davis, on a parlé de vibrer avec l'OM tout à l'heure.
Elle était déjà un peu en fin de vie, hein.
Ouais, elle était en... Non, mais non. Par contre, moi, ça me faisait un week-end. Et je vibrais devant ça, quoi. Je veux dire, la Coupe Davis, quel que soit l'adversaire, c'était un truc qui marchait, un truc qui prenait au trip, il y avait de l'émotion. Et il nous a pris ça, quoi. Il nous a enlevé ça. Donc Piqué, moi, je lui en voudrais quoi qu'il arrive. Par contre, c'est vrai que ce que raconte Pierre, c'est vrai que ça donne envie de regarder. Après, peut-être que j'accrocherai pas, mais.
En tout cas, c'est très vu, hein, il l'a dit, en Espagne, ça cartonne sur les réseaux sociaux, c'est fait pour les jeunes. C'est peut-être pour ça que vous n'aimez pas, monsieur.
Oui, c'est pour ça, bien sûr. Il y a des vieux réacs.
voilà, c'est ça.
Mais non, mais Pascal, alors c'est vrai que c'est du foot à 7. C'est peut-être l'occasion, je prends la défense de Piqué, de tester des choses pour l'utiliser ensuite.
Il a le droit et il fait bien de le faire, mais bon, après, j'ai aussi le droit de pas être enthousiaste, je suis plutôt conservateur. Ça existe déjà, le foot à 7. Bon, il l'accommode à une sauce bien à lui. On va voir avec le temps. Non, moi, je le verrais plutôt racheter les droits de télévisuel de Miss Monde, parce que c'est vrai qu'en termes de choix de nouvelles compagnes, il a bien fait des choses.
Marc, pourquoi t'aimes pas?
Une bouillie.
T'as pas regardé?
Non, puis je regarderai pas.
Ça se trouve, ça peut te plaire, on sait pas.
J'y crois pas, non.
Faut aller sur Twitch, hein, déjà, faut avoir Twitch.
Déjà, ouais. Si mon fils.
Tu lui demanderas.
Alors, mon fils est accaparé mon téléphone, mon adresse mail pour être sur Twitch.
Ah, donc Marc Madiot est sur Twitch, oui, allez-y. Non, mais bon, c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Il y a des règles comme ça qui sortent du chapeau. Mais il y a une vraie réflexion derrière, moi je trouve, hein, c'est que les sports, pas que le foot, hein, les sports sont obligés aujourd'hui d'atteindre un nouveau public.
Ouais.
Et donc de se renouveler. Et donc forcément, toutes les idées peut-être sont bonnes à prendre.
Oui, mais non. Moi je crois quand même aux racines et aux sources. Les sports qui sont en place aujourd'hui, le tennis, le foot, le vélo, l'athlétisme et autres, sont des sports qui ont un véritable ancrage, qui se sont peaufinés.
Qui ont évolué
avec le temps, mais ils ne doivent rien au hasard, rien.
Mais Marc,
et je pense que
on retournera justement aux sources. Moi, par exemple, je vais vous parler du vélo. Je pense qu'on est, on retourne progressivement vers les sources de ce qu'était notre sport. C'était un sport de les forçats de la route. Forçats de la route, c'était pas un mot qui était apparu au hasard. C'était pas une phrase qui était apparue au hasard dans la bouche d'un journaliste.
Mais est-ce que tu crois que les jeunes aujourd'hui,
oui,
les jeunes dans, oui, dans les banlieues, dans les cités, quand tu leur dis tu vas être un forçat de la route, tu crois que ça leur dit quelque chose? Ça leur parle?
À certains, pas à tous.
Mais alors,
dans les banlieues, ils pensent qu'à taper dans un ballon.
Moi, je suis un passionné de vélo, tu le sais bien, mais aujourd'hui, j'ai l'impression
que le gravel fait son apparition. C'est issu de quoi le gravel? C'est issu des forçats de la route. À l'époque, il n'y avait pas de goudron sur la route. C'est ça, les gravels.
Non, mais on retourne vers Christophe, c'est qu'il faut quand même
d'autrefois
intéresser des jeunes, ouais,
enfin, avec des machines qui n'ont aucun rapport avec ce qu'elles avaient.
Ouais, mais il faut intéresser des jeunes qui consomment le sport différemment que nous. Il faut aussi l'accepter. Donc, les courses qui sont très longues, les matchs qui sont très longs, ils veulent des surprises, ils veulent être surpris pendant une compétition, ils veulent picorer le sport. C'est
du plein de boulot. Tu peux avoir une compétition très longue et tu viens par moment, tu viens zapper, tu viens consommer pendant quelques. Toi, par exemple, là, ce week-end, il y a les 24 heures de Daytona.
Christophe.
Les 24 heures de Daytona, t'es pas connecté pendant 24 heures sur ton écran. Mais les 24 heures de Daytona, j'ai regardé le départ, j'ai regardé un petit coup à 22 heures. Ce matin au réveil, j'ai regardé le classement.
Ton fils, il regarde pas, par contre.
Oui, mais il regarde Netflix.
On en parlera dans un instant.
Non, mais il faut, je pense que pour faire évoluer le sport et pour l'adapter aux jeunes qui aujourd'hui ne regardent pas je pense que les jeunes ne regardent pas la même chose que
bien
nous.
Sûr.
Et les choses qu'on regardait nous ne les intéressent pas forcément. Il y a certains personnes en place. Je pense à Mouratoglou en tennis, qui est quand même une référence. Hein. Il a essayé de créer une nouvelle sorte de compétition. Je sais pas où ça en est. Peut-être Eric pourrait nous en parler. Mais voilà, il faut essayer de réfléchir. Le laboratoire d'idées doit être ouvert parce que les générations passent et ne sont pas intéressées par les mêmes trucs.
Le paddle fait fureur.
Le paddle en tennis, c'est un truc incroyable.
Ça fait un carton formidable. Non, moi je pense que j'aime bien le côté laboratoire permanent quand même, tu vois. C'est important que le sport, voilà, il reste pas. Par contre, je suis aussi comme Marc, j'aime aussi les racines. Moi, gamin, nous dans le quartier, pendant le Tour de France, on jouait à être Lucho Herrera, Job Zoetemelk, fois Marc Madiot. Non, mais c'est vrai. C'est ça l'essence. Plus que les forçats de la route, moi je pense, Marc. Pour moi, la force de ton sport, c'est plus ça. C'est l'Alpe d'Huez, c'est les trucs, c'est les machins. C'est plus ça. Mais par contre, aujourd'hui, bon, peut-être que nous on est en décalage avec les aspirations des gamins d'aujourd'hui. Mais cette histoire de foot là que Pierre vient de raconter, nous autant on jouait au Tour de France à l'époque Tour de France, on bricolait un filet de tennis quand il y avait Roland Garros et puis on était à jouer au foot sur un terrain de hand en 7-7 et n'en déplaise à Pascal Duprat, il y avait pas de hors-jeu, il y avait pas de
ça existe déjà en fait dans notre sport, le foot qui tente aussi de se réinventer même si c'est le sport, on va dire, roi par excellence, en tout cas qui est compris de tout le monde. Aujourd'hui, il y a des fives partout. Aujourd'hui, le futsal, ça marche. Il y a une possibilité de pratiquer le football par ses dérivés, le footy volley, et j'en passe. Donc Piqué rajoute juste. Bon, il a raison de le faire encore une fois, mais bon, c'est pas ce qui me passionne. J'ai l'impression que c'est du réchauffé, voilà.
Moi, j'ai l'impression que plus les sports sont simples, plus ils sont compréhensibles par tout le monde et plus ils sont pratiqués aussi. Là, le truc de Piqué, c'est quand même une usine à gaz. Hein. Moi, j'ai rien compris à ce que nous a expliqué Pierre.
Peut-être qu'il a mal raconté. Ça, tu verras ça avec lui.
Le foot. Pourquoi le foot est le sport roi? Parce que le foot est simple à comprendre. Les règles sont faciles à comprendre.
Et tout le monde peut le
pratiquer. Voilà. Et c'est en ça que je suis pas d'accord. Que tu le rendes peut-être plus dynamique, plus rythmé par certains trucs, ok, mais inventer des règles aussi touffues là.
Mais t'as parlé du tennis, tiens, on va rejoindre Eric Salio dans un instant, on fait le point sur la finale de l'Open d'Australie avec toi. Eric, parce que c'est vrai que ton sport, toi pour le coup, le tennis, il a cherché à se réinventer. Hein. Bon, il y a eu le passage de Piqué mémorable pour la Coupe Davis, mais c'est vrai que c'est un des sports qui cherche le plus à atteindre un nouveau public. Eric Salo, il est tellement concentré qu'il n'a même pas entendu ma question.
Il est à la buvette.
Oui, non. C'est vrai que Patrick Mouratoglou a lancé un circuit qui va reprendre au cours de cette année 2023, mais pas. Il va explorer d'autres continents. C'est du quick tennis, quoi. Là, tu passes au Burger King. Bon, voilà. C'est vrai.
Il paraît que le tennis est un sport long qui est devenu ennuyeux. Bon, moi je trouve qu'une finale en 5-7 c'est génial, mais c'est vrai que c'est la tendance de tout raccourcir. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'à Wimbledon, le tour à double se déroule au meilleur des 5-7. Alors c'est éprouvant, hein, c'est des matchs en 5-7. Et bien ils ont décidé de raccourcir. Désormais les premiers tours ont lieu en 2-7 et normalement ils garderont quand même la demi-finale et la finale en 5-7. Et je peux vous dire, moi j'en ai vu des finales en 5-7, ça a un côté mythique qui est génial. Voilà, mais la tendance c'est de tout.
Il y aura plus de Isner-Mahut, quoi. C'est terminé tout ça. Les matchs.
Ça, ils ont revu à cause de Isner-Mahut, ils ont instauré le tie-break maintenant au 5e set aussi. Donc voilà. Mais les temps ont changé, c'est normal.
Alors où on en est justement de cette finale? Est-ce qu'on va aller en 5-7? Tsitsipas Djokovic, Eric.
Il va mieux Stefanos Tsitsipas. Il bouge beaucoup mieux. Il fait la course en tête. Dans cette deuxième manche, il mène 3-2. Je rappelle qu'il a perdu le premier 6-3 face à Djokovic qui était vraiment intouchable. Mais depuis 20 minutes, il y a match. Il y a match et je suis très confiant pour que cette finale prenne une envergure assez intéressante.
Parfait, Eric. Merci beaucoup. On revient vers toi. Bien sûr, on suit de très près Tsitsipas face à Djokovic. Et dans un instant, c'est un nouveau zapping dans les grandes gueules du sport. Le fameux on s'en fout pas. On va parler de ski avec Michaela Schifrin, qui est en route vers le record. Restez bien avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Les grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi, il est 10h46. On est avec Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Marc Madiot, Renaud Longuèvre ce matin. À 11h, on aura le bras de fer des GG, puisqu'on va parler de Netflix. Ça envahit les terrains de sport pour notamment raconter le tournoi Destination bientôt, le Tour de France aussi, après la Formule 1 et le tennis d'ailleurs, qui est dernièrement sorti sur les écrans de Netflix. Il faut choisir un camp. Est-ce que c'est merveilleux Netflix pour le sport? Est-ce que c'est dangereux? Ça, c'est dans un instant. Et puis on reviendra aussi à la finale, bien sûr, avec Eric Salio de l'Open d'Australie entre Djokovic et Tsitsipas. Pour l'instant, Djokovic mène toujours un 7-0. Mais d'abord, on s'en fout pas, le retour.
Le zapping des GG. Le retour.
Avec évidemment Michaela Schifrin, première info à vous donner, qui est à une victoire d'égaler le record d'Ingemar Stenmark, qui est de 86 victoires en Coupe du Monde. Pour l'instant, elle a dominé largement la première manche du slalom en République tchèque. Début de la deuxième manche, ça sera à 12h15 et on suivra ça bien sûr sur RMC. On s'en fout pas. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Renaud Longuèvre.
Alors, fan de ski.
Christophe Cessieux.
Idem.
Évidemment. Marc Madiot.
Ah, je ne m'en fous pas.
Personne ne s'en fout. Vous allez pouvoir tous parler donc sur cette information. La skieuse américaine qui a remporté donc hier un 85e succès en Coupe du Monde et qui est dans les pas d'Ingemar Stenmark, 86 victoires. Et on verra si elle réussit à égaler ce record et puis à le battre plus tard, parce que c'est aussi oui, ça oui, l'objectif,
là,
bien
l'objectif,
sûr.
L'objectif, c'est d'aller à 100 victoires.
Sachant hein, qu'elle peut gagner minimum, hein. Sur la piste. Là où elle avait pris son premier départ en Coupe du Monde en 2011, elle peut égaler ce record. Donc en République tchèque, je ne vais pas dire le nom là, Spindleruf Mlin, en République tchèque. Je me suis lancé quand même. Pourquoi on s'en fout pas, Renaud?
Bah parce que moi, pour moi, le ski c'est nos cousins, nous l'athlétisme. Hein, enfin voilà, je vais peut-être mon collègue cycliste va me sauter dessus, mais le premier sport olympique des sports d'été, c'est l'athlétisme.
Oui.
Merci Marc. Et le premier sport olympique des sports d'hiver, c'est le ski. Donc on est un petit peu cousins. Et puis j'ai eu la chance, j'ai fait beaucoup de stages à Tignes là-bas. Et puis l'hôtel où on était hébergé, eh ben le patron Gilles Mazega est marié avec une certaine Périne Pellen. Et donc Gilles, c'était mon consultant de luxe. Il me mettait la main sur la cuisse. Il me disait assieds-toi, on va regarder du slalom géant. Il y a Fanara, il y a Mufajandet, il y a Pinturo. Les Français sont là, ils vont là. Et voilà. Donc je me suis pris de passion et maintenant tous les week-ends je rate pas du tout aucune épreuve de la Coupe du Monde de ski. J'adore ça, j'adore cette la manière dont c'est monté aussi en télévision avec première manche, deuxième manche hein, pour les slaloms, ce côté et puis ensuite
les inversés
avec les écarts, ça allume du vert, ça allume du rouge. Voilà, moi c'est un truc qui me passionne. Et puis effectivement l'enchaînement de victoires de Michaela Schifrin, les records Stenmark, c'était l'époque Périne Pellen, Fabienne Serra, c'était Lake Placid. Donc oui, tout ça me parle.
T'as tout dit, mais Pascal, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, bah, de par mes origines, bah, j'aime le ski. Voilà. Donc, et en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que Chiffrine, j'ai regardé, hein, je ne rate rien puisque, en fait, je suis à, comment dire, à l'arrêt, sans club. Donc, je regarde toutes les compétitions de ski et je trouve que Chiffrine a un rapport avec la neige qui est exceptionnel. Une vitesse, une maestria. Hier, elle a gagné parce qu'il y avait un premier slalom hier en République tchèque. Elle a fait le meilleur temps sur les deux manches. Vraiment, elle est exceptionnelle.
Elle écrase tout le monde, Christophe.
Et là, en plus, le côté exceptionnel de Chiffrine, c'est qu'elle est capable de gagner sur toutes les compétitions, toutes les disciplines. C'est quand même rarissime qu'une skieuse arrive à gagner en slalom et arrive à gagner en descente. Il y a quand même un écart. Elle gagne en slalom, en géant, en super géant, combiné, en slalom parallèle et en descente. Elle a 3 ou 4 victoires en Coupe du Monde en descente. C'est tout simplement exceptionnel. Et puis, effectivement, ça rappelle ce que tu disais, Renaud, le nom d'Ingemar Stenmark pour les gens de notre génération. Ouais. Ça veut dire quelque chose, quoi. C'était l'équivalent en ski de Björn Borg, hein. C'était à peu près la même époque. C'était un peu le même genre de look. Des mecs, pas très drôles, sérieux, blondinés avec des yeux bleus, qui gagnaient tout. Et voilà. Ça me rappelle un peu mon enfance. J'avais le poster de Stenmark dans ma chambre.
Ah ouais.
Mais moi aussi, je suis un passionné de ski. Hein.
Posters de skieurs et de skieuses. Quand j'avais 2 ans,
tu trouvais ça où les posters de ski?
Dans ski français.
Tu lisais ski français.
Ouais.
Incroyable. Moi, j'étais 11 mondial, tu vois.
Moi aussi, je lisais 11 mondial aussi. Ouais. J'ai eu le premier 11.
Il y avait des posters aussi.
Le premier 11, tu sais, avec la photo d'un ballon, c'était un dessin d'un ballon de foot avec les drapeaux de tous les pays dans les.
Si vieux que ça.
Ah ouais, je suis vieux, très très vieux, ouais.
Marc.
C'était pas 11 mondial, c'était 11 à l'époque.
Ah, ça s'appelait 11.
Il y avait 11 et ensuite il y a eu mondial et ensuite les deux ont fusionné.
Il y a les super posters dedans, voilà.
Moi j'avais les posters de Miroir du cyclisme. C'était plutôt autre chose, mais c'est un peu la même.
T'étais un peu plus vieux aussi, toi.
Non, mais plus sérieusement, les records dans tous les sports, dans toutes les disciplines qui permettent de faire un retour sur le passé, moi ça me passionne, ça m'intéresse, donc c'est pour ça que je suis sensible à ce record.
Ok, on va parler, qu'on continue de parler un petit peu de neige avec du ski de fond cette fois. Deuxième information quand même importante, Richard Jouve qui a gagné en France, dans le Jura, une épreuve de ski de fond. On s'en fout, on s'en fout pas, j'imagine un peu les réponses. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Renaud Longuèvre.
Moi, je vais dire je m'en fous parce que.
Voilà, t'as pas le droit de parler. Christophe Cécile.
Je m'en fous pas.
Marc Madiot.
Je m'en fous un peu.
Tu t'en fous, tu as le droit de t'en foutre. Richard Jouve, qui s'est imposé hier, c'était au Rousse. Il a gagné le sprint classique. Premier Français à s'imposer à domicile dans une épreuve individuelle devant un des très grands fondeurs mondial, le Norvégien Johannes Klebe. Et pourtant, en plus, il était légèrement blessé à l'adducteur. Écoutez juste l'ambiance. Au moment de l'arrivée de Richard Jouve, la joie incroyable du Français devant un public français. Ce qui est incroyable, c'est qu'on entend Jouve, mais on entend aussi ses coéquipiers.
Ses coéquipiers qui l'attendent, en fait. Ouais. C'est incroyable. Mais une ambiance de folie, là, au Rousse, pour cette épreuve de Coupe du Monde. Il n'y a pas eu d'épreuve de Coupe du Monde de ski de fond en France depuis des années. Et là, c'est le retour. Et en plus, les Français gagnent. Delphine Claudel a fait deuxième hier ou avant-hier. Et hier, c'est Jouve qui gagne. Il y a une ambiance de dingue. C'est chouette parce que, franchement, le ski de fond, jusque-là, c'était un peu le parent pauvre dans le ski français. On parlait beaucoup de l'alpin. Et évidemment beaucoup du biathlon depuis quelques années, mais le ski de fond est un peu laissé de côté. Et là, les voir gagner comme ça, c'est génial. Et alors, je suis très surpris que tu te foutes du ski de fond, et surtout de cette épreuve, Marc, parce que c'est ce qui ressemble le plus au vélo. Franchement, c'est comme un sprint à vélo. Les mecs, ils donnent tout dans les derniers mètres.
C'est un problème avec la neige.
En Mayenne, la neige, c'est pas
on a pas la neige.
En plus, il faisait beau, les images étaient magnifiques. Et puis, on parlait tout à l'heure des sports qui réussissent à se réinventer. C'est vrai que cette compétition de sprint, ça doit être 2,40 ou 2,45 d'effort. C'est sous forme de battle pour arriver à la finale. Franchement, c'est top avec ce dernier sprint là sur un faux plat montant. C'est haletant, ça vous prend aux tripes. Franchement, c'était chouette.
Richard Jouve, et si vous voulez revoir ces images là dont on parle, c'est à voir sur amcsport.fr. C'est vrai que ce sont de très très belles images.
Et regardez aussi l'épreuve remportée par Claudel la semaine dernière. Alors là, c'est dans une pente. Là, c'est un truc de dingo. C'est-à-dire, elle monte les pentes à ski, quoi. Mais des pentes très très sévères, quoi. C'est une pantanie du ski de fond, quoi.
Ah ouais, c'est le Grand Prix de la montagne, c'est vrai.
Incroyable. Bon, on va aller à Melbourne retrouver Tsitsipas, Djokovic et surtout retrouver Eric Salio qui commente pour nous cette finale de l'Open d'Australie, toujours à 7-0 pour le Serbe, Eric.
Ah ouais, mais là c'est monté d'un cran en termes de qualité de jeu puisque Tsitsipas est à 3 jeux partout. Il a une balle pour faire 4 jeux à 3, mais les échanges sont monstrueux. Monstrueux. Et là, il va être en grosse difficulté, le grec. Non, il se trompe peut-être de côté, Novak Djokovic, et la volée va sortir. Jeu de Tsitsipas, croyez-moi, c'est un jeu qui va compter. Il connaît un petit peu en tennis.
Il paraît. 4-3 Tsitsipas. D'accord. Donc là, la finale est totalement relancée, d'après toi.
Ah ouais, non, parce que là, il a eu très peur de se faire prendre son service. Et il a montré qu'il était super costaud dans sa tête. Et là, Djokovic est fatigué, il a besoin vraiment de récupérer parce qu'il il s'est dépensé physiquement comme jamais, parce qu'il voulait absolument faire le break pour enfoncer son adversaire, il n'y est pas parvenu. Donc il a deux répondants en face et ça m'excite.
Voilà, ça excite Eric Salio. Vous y croyez, vous, le retour du grec là dans le match, ou non?
Ouais, j'y crois parce que c'est... Non mais il est usant, Djokovic. C'est la comédia dell'arte, mais il répète ça dans le temps. Il fait croire à tout le monde qu'il est à la rue, alors que physiquement c'est un monstre, mais de chez monstre, mais au moins du niveau de Nadal sur le plan de la caisse. Mais il joue à nous faire croire qu'il est éclaté, qu'il est limite d'aller aux urgences. Non mais moi ça me fatigue là, ça me casse la tête.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Il a pas besoin de ça en plus. Il a pas besoin de ça et ça lui donne un côté antipathique. Les gens en ont ras-le-bol de cette façon de faire. Alors que on a envie de s'enthousiasmer pour ses qualités tennistiques. C'est un fantastique.
Il dit qu'il simule pas. Il dit que voilà, il est vraiment fatigué, vraiment blessé, etc.
Vous énervez pour rien quand même. qu'est-ce qu'il fait? Vous avez pas vu? Vous vous rappelez pas de Connors ou j'en passe?
Oui, vous mec. Bon.
Qu'est-ce qu'il fait de si ahurissant
Non mais attends,
Djokovic.
Pascal,
il
Pascal,
ne fait que répondre aux journalistes quand il balance des informations qui sont fausses.
Non non.
Donc à partir de là, on le jette en pâture.
Non Pascal, moi oui. McEnroe, c'est pas pareil. McEnroe, c'était un putain de caractériel. Moi, j'aimais bien ce mec-là parce que voilà, lui, il assumait ça. Voilà, quand on parlait tout à l'heure du côté du tennis là, qui était un casse-tête et tout, bah lui derrière, il s'en prenait à l'arbitre, il jetait sa raquette.
À ses adversaires aussi, Renaud, parce que toi, tu voyais ça avec tes yeux d'enfant, t'étais jeune à l'époque, mais c'était bien.
Mais moi, j'aime les caractériels.
Plus répréhensible que ce que fait Novak.
Bon, ouais, en tout cas,
par rapport à ce que fait Novak, c'est rien, c'est des broutilles. Bon, il a envie d'aller pisser un coup. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il a peut-être un début de prostate. Il a envie d'aller pisser, il y va. Il demande l'avis de l'arbitre.
Mais non, mais jouer la comédie comme ça, nous faire croire qu'il est à l'agonie et tout. Bah, arrête, Pascal, t'aurais un joueur comme ça dans ton équipe.
Bon, franchement, il a dû en voir passer.
Moi, juste une petite question à Eric. Ses problèmes à la cuisse, ça a disparu parce que les premiers tours, il savait pas
ce que je te propose, Pascal, c'est qu'on ait la réponse d'Eric après la pause. Il a besoin de mener l'enquête. On le retrouve dans un instant pour Djokovic, Tsitsipas, bien sûr, la suite de cette finale de l'Open d'Australie. Et puis, pour parler aussi de Netflix et de sport, les liaisons dangereuses. À tout de suite sur RMC.